Bonsoir, on va vous emmener ce soir dans l'Arctique, une terre autrefois immaculée, à peu près vierge de toute revendication et officiellement qui n'appartient à personne. Alors ça c'est la théorie, puisque cette zone qui est grande comme 30 fois la France, eh bien abrite des ressources naturelles considérables, du pétrole, du gaz, des minerais, et elle est devenue vraiment le terrain de jeu des grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis, Pékin, qui juste avant le week-end, eh bien, annonçait qu'elle voulait en faire, eh bien, une nouvelle route de la soie polaire et faire passer, à l'instar de la Russie, ses navires de commerce profitant de la fonte des glaces. Alors, l'Arctique est-elle la nouvelle planète à conquérir? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les meilleurs décodeurs de l'écho, jugez-en. Voici Christian Bûcher, membre de l'Académie de Marine, qui a fait paraître il y a deux mois, c'était en fin d'année 2017, un formidable livre, La grande histoire de la mer. Avec nous également Damien Degeorge. Damien Degeorge, il est consultant international à Reykjavik, il vit en Islande, il parle l'islandais, le suédois, le finlandais, c'est l'un des grands experts du pôle et des pays nordiques. Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la FRS, auteur de La puissance chinoise en 100 questions, toujours d'actualité et bien entendu. Et puis Olivier Appert qui préside le Conseil français de l'énergie, l'un des grands experts aussi de tout ce qui est matières premières en France. Alors, c'était juste avant le week-end, on a voulu vous en reparler ce soir dans les décodeurs de l'écho, une déclaration tout à fait officielle du vice-ministre des Affaires étrangères chinois. La Chine veut une route de la soie polaire dans l'Arctique. Valérie Niquet, comment la Chine elle a présenté ce projet? Ça a l'air vraiment assumé de sa part, justement. C'est la première fois que la Chine annonce clairement la couleur, donc, ses ambitions dans la région.
Alors la nouveauté, c'est que la Chine vient de sortir un livre blanc sur l'Arctique qu'elle n'avait pas fait jusqu'à maintenant, et donc ça marque véritablement ses ambitions et la stratégie qu'elle veut mener dans la région. Mais ça fait déjà plusieurs années que la Chine s'intéresse à l'Arctique, depuis la fin des années 80 d'une manière très très empointillée, mais évidemment cet intérêt aujourd'hui s'appuie sur des moyens nouveaux. Elle a notamment un brise-glace, bon, qui initialement était construit par l'Ukraine, elle est en train d'en construire un deuxième elle-même. Elle a plusieurs fois, plusieurs reprises, donc emprunté ses routes du Nord. Elle est membre observateur du Conseil de l'Arctique. Et puis, elle a lancé ce concept un peu particulier de nation quasi-arctique. Donc, on voit bien que pour la Chine, c'est un lieu, on en reparlera, qui a tout un tas d'intérêts économiques, stratégiques. Et puis, comme vous l'indiquiez, relié à ce concept très, très vague, assez flou, et dont parfois on a du mal à voir quelle est la réalité derrière les grands mots, qui est celui des routes de la soie. Alors on a la route de la soie terrestre, la route de la soie en Asie du Sud-Est, la route de la soie vers le Pacifique, vers l'Afrique, vers l'Amérique latine et aujourd'hui vers l'Arctique. Donc ça rentre dans cette grande stratégie d'exportation de la puissance chinoise et l'Arctique présente un intérêt particulier pour la Chine effectivement.
On en est loin quand même de la Chine, l'Arctique. Hein
on en est loin, mais enfin la Chine considère que comme il l'indiquait également, c'est une zone où la Chine ne sera pas trop ambitieuse, mais où elle défendra ses intérêts. Donc, elle annonce la couleur d'une manière assez claire. Elle n'a pas du tout l'intention de se voir exclue du potentiel. Il y a des intérêts stratégiques. Il y a une rivalité aussi avec la Russie, en dépit de ce fameux partenariat stratégique. Donc, c'est quelque chose à suivre, effectivement, de très près.
Bon, Christian Bûcher, juste un mot. De quoi parle-t-on? On parle de l'Arctique ce soir. La région qui jouxte le pôle Nord, qui n'est pas reconnue comme un continent, mais comme une zone maritime gelée, et qui est bordée par 6 pays, la Russie, le Canada, les États-Unis, il y a l'Alaska, bien sûr, le Danemark, le Groenland, bien sûr, l'Islande, la Norvège. C'est une zone considérable, 14 millions de kilomètres carrés, 30 fois la France. Donc, c'est quoi le statut de l'Arctique? Ça appartient à qui?
Ben écoutez, ça appartient d'abord, la haute mer appartient à personne. L'Arctique en lui-même n'appartient à personne. C'est pas un continent parce que c'est de la glace qui flotte, contrairement à l'Antarctique au sud. Et puis, il y a toute la zone bordière qui appartient aux 6 pays que vous avez cités. Et c'est tout à fait colossal avec une Russie qui doit être quasiment à hauteur de 46% de l'Arctique. C'est quasiment 22 000 kilomètres de côte, la Russie. Donc, c'est tout à fait conséquent. Par rapport à ce que vous évoquez, pourquoi les Chinois vont là-bas. Vous savez, quand on regarde la planète de très haut, il y a trois grandes zones qui sont les zones les plus riches en termes de matières premières, qui sont des zones quasiment inexploitées. Alors, je ne me fais pas l'avocat d'un champ du productivisme, parce qu'on n'aura pas d'océan de rechange, hein. Donc il ne s'agit pas de faire avec l'océan ce qu'on a fait avec la Terre. Vous avez le Brésil, et on voit que le Brésil est presque la base arrière en grande partie de l'approvisionnement chinois. Et puis, il y a dans l'hémisphère nord deux grandes zones qui sont aujourd'hui totalement inexploitées. Ça s'appelle le nord du Canada et puis ça s'appelle la Sibérie au sens large. Donc, on voit bien l'enjeu. L'enjeu n'est pas simplement maritime pour qu'il y ait des raccourcis. Il s'agit de transformer deux cul-de-sac aujourd'hui qu'on ne peut pas exploiter, le nord du Canada et la Sibérie, parce que vous imaginez les routes, en les mettant sur les deux artères maritimes qui demain seront probablement parmi les plus fréquentées.
Juste, Olivier Appert, c'est une zone riche en matières premières, je le disais en introduction, les enjeux sont énormes. Par exemple, tiens, quand on pense au pétrole, on cite des réserves de 10 000 milliards de barils de pétrole. Alors, ça veut absolument rien dire, mais si je dis que c'est l'équivalent de celle de l'Arabie Saoudite, ça vous semble plausible, réaliste ou pas?
Ça me semble un peu excessif parce que certes, il y a des quantités très importantes de pétrole et de gaz, mais encore faut-il pouvoir l'exploiter et ça pose quand même des problèmes autrement plus compliqués que l'Arabie Saoudite, voire même que le Brésil.
Surtout quand il s'agit, on reviendra notamment sur le site de Yamal qui avait été inauguré en grande pompe par les dirigeants de Total et puis par Vladimir Poutine au mois de décembre. La température, elle fait quoi? Moins 50 degrés, c'est énorme, moins 50 degrés. Et aller forer justement à moins 50 degrés, Olivier Appert, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc finalement, oui, il faut relativiser.
Faut relativiser. Faut aussi prendre en compte l'impact que pourrait avoir une pollution. Et aujourd'hui, après l'accident de l'Exxon Valdez en Alaska, les compagnies pétrolières sont quand même très très attentives, surtout en ce qui concerne le potentiel d'exploitation de pétrole.
On va y revenir justement. On va revenir sur la Chine, les ambitions des Chinois. Damien De Georges. Régulièrement, on est en contact, hein. Vous m'envoyez des mails, vous m'appelez, vous êtes déjà venu dans les décodeurs de l'écho, vous vivez à Reykjavik, vous faites une tournée régulièrement dans les pays nordiques. Les Chinois, vous les voyez s'installer dans la région, et notamment dans la capitale islandaise, où vous vivez.
Oui, alors les Chinois ont approché les 8 pays arctiques, et en particulier l'Islande. Il y a eu un lobbying depuis plusieurs années sur les petits pays arctiques, entre guillemets, que sont les 5 pays nordiques, et l'Islande le plus petit. Si vous prenez la taille de l'ambassade de Chine à Reykjavik, le bâtiment en lui-même, à l'échelle de Reykjavik, ce serait comme si on parlait de l'ambassade de Russie à Paris, quelque part.
D'accord.
Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les États-Unis sont en train de construire une ambassade dont le bâtiment sera encore plus grand.
Pour montrer
que c'est bien eux
qui sont
les patrons dans la région. Et on est sur des enjeux sécuritaires de plus en plus. Alors, on touche aux télécommunications, aux satellites. Mais également, notamment au Groenland, il y a eu une entreprise chinoise qui a voulu racheter une base navale danoise que les Danois ont finalement gardée. Un milliardaire chinois voulait acheter un terrain en Islande. Ça ne s'est pas fait. Il y a quelques années, je me souviens en une d'un journal norvégien que le maire de Tromsø, la capitale arctique norvégienne, avait été interrogé par les services secrets norvégiens pour avoir rencontré apparemment un peu trop souvent l'ambassadeur chinois à Oslo. Voilà, donc on est sur des enjeux de sécurité quand même.
Valérie Niquet.
Oui, alors parmi l'intérêt de la Chine pour ces pays, on a pu noter aussi un très gros lobbying, non seulement en direction de l'Islande, mais également en direction du Groenland. Le Groenland a une très grande autonomie et les Chinois se sont immédiatement intéressés à cette zone qui a des besoins considérables en infrastructure. Donc c'est la stratégie qu'on voit un peu partout d'ailleurs, qui accompagne ces routes de la soie, mais qu'on voit en Afrique, qu'on voit en Europe centrale. Les pays les plus faibles et les plus demandeurs qui ont des besoins, eh bien la Chine se précipite pour offrir son aide en infrastructure notamment, en financière également. Il y a des investissements colossaux également en Alaska. Et tout ceci pour tenter de mettre un pied. Mais alors, l'envers de la médaille, c'est qu'évidemment, la Chine suscite une méfiance croissante, comme vous l'avez signalé. Elle est tellement offensive et assez sûre d'elle que finalement, ça inquiète dans la région. Et que les avancées chinoises ne sont pas aussi faciles, peut-être, que ce que Pékin avait pu espérer à un certain moment.
Oui, Damien De Georges, qu'elle dit, Valérie Niquet, les pays de la région, les petits pays de la région, hein, quelque part, ils se méfient des Chinois ou pas?
Oui, alors, pour remettre l'article sur la carte globale, on va dire que ce qui se passe en mer de Chine méridionale, donc dans l'arrière-cour de la Chine, l'Arctique est depuis plusieurs années très clairement le théâtre d'un second acte de rapport de force entre les États-Unis et la Chine, cette fois dans l'arrière-cour des États-Unis. Ça s'est symbolisé en 2015 quand Barack Obama avait visité l'État arctique des États-Unis, l'Alaska. Et qu'au même moment, vous aviez en mer de Bering, donc juste en face, des navires chinois militaires. Et donc là, c'était le symbole. Et très clairement, dans cette zone, le territoire le plus sensible, c'est le Groenland. avec une base américaine qui est vraiment l'assurance vie de la défense américaine et qui un territoire qui souhaite être indépendant et où les Chinois, en achetant, disons, l'économie groenlandaise au travers de quelques investissements, pourraient contrôler ce territoire. Et là, vous auriez des tensions, je dirais, géopolitiques.
Christian Buffet. On est vraiment dans l'Arctique, au cœur de la géopolitique de demain, par rapport à ces deux gisements énormes, Nord-Canada et Sibérie de matières premières, avec le Groenland qui est une pièce maîtresse aussi, puisque ça appartient au Danemark, mais on voit les intérêts nord-américains qui ont de plus en plus, par différents moyens, y compris le crabe des neiges, tendance à vouloir ramener le Groenland dans le giron. Et puis cette Chine, elle est quand même, c'est un pays extraordinaire en termes de puissance démographique, mais qui est quand même très mal desservi en termes de matières premières. On évoquait le besoin de la Chine de s'appuyer sur le Brésil, mais ça ne développe pas le Brésil. Et on commence à voir au Brésil des volontés de ne plus exporter ses matières premières. Donc la Chine est obligée d'en trouver ailleurs. Et la Chine souffre de n'être que le 10e domaine maritime au monde. On est dans un pays où on a la chance d'être le 2e domaine maritime au monde, mais on n'en fait rien. Bon, mais la Chine, qui n'est que le 10e, est en train de créer des îles naturelles, artificielles, c'est-à-dire de toutes pièces, en partant du sable, on fait monter du sable, et puis ça dépasse de l'eau. Ah, une île, donnez-nous le domaine maritime qui vont autour. Alors, vous avez le russe parfois, souvent le philippin, le brunéen, etc. Bon, donc on voit la nécessité pour la Chine.
Exactement la même chose dans l'Arctique, en temps en temps, ils se disent, ah bah tiens, il y a une petite île qui a émergé, hop, c'est à moi et donc je récupère et c'est mon territoire désormais.
Il y a quelques flaques de pétrole notamment qui sont très, très disputées. Donc on voit que cette Chine qui est dans la nécessité de partout trouver des matières premières, d'où le fait qu'elle soit obligée de venir dans la région.
Et c'est vrai que la Chine est déjà présente dans la plupart des projets miniers donc au Canada et du Groenland et en Alaska également, puisqu'il y a des associations avec les Américains de l'Alaska, Olivier Appert.
Oui, effectivement, les Chinois font flèche de tout bois pour essayer d'assurer leurs approvisionnements en pétrole et en gaz, parce que l'énergie est quand même la cheville, enfin, c'est le talon d'Achille de l'économie chinoise.
Ils ont fait un chèque de presque quoi, 40 milliards de dollars pour développer un gisement de gaz liquide en Alaska. Investissement record, on l'a vu, donc Valérie Niquet.
Oui, mais effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tout de même cette question de coût, c'est-à-dire que l'exploitation des ressources énergétiques, le pétrole ou le gaz, ça va quand les coûts sont très très élevés. Et justement, un des problèmes de la Chine aujourd'hui, c'est que elle peut éventuellement être intéressée par ces gisements, mais qui sont d'une rentabilité et en termes de capacité d'exploitation qui posent des problèmes absolument majeurs. Et je reviens à la Russie. Les Russes sont à la fois intéressés par les transferts de technologies ou les coopérations avec la Chine également, mais sont aussi très très méfiants devant la volonté chinoise de s'affranchir actuellement dans les routes, ces fameuses routes de transport maritime. La Russie joue encore un rôle essentiel pour ouvrir la voie avec ses propres brise-glaces actuellement.
En une quarantaine, c'est la plus grosse flotte de brise-glaces.
La Chine aimerait aujourd'hui s'en affranchir. Il n'est pas certain du tout que Moscou soit prêt. D'ailleurs, Moscou avait été un des premiers à être les plus réticents quand la Chine est devenue observateur de cette association des pays de l'Arctique.
On va revenir sur les routes maritimes dans un instant, Christian Boucher. Juste simplement, en effet, pour rebondir sur ce que disait Valérie Niquet de la FRS, Olivier Appert, cette zone, elle est riche en matières premières. Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, oui, bien sûr, il y a des gisements, bien sûr, il y a beaucoup de choses au fond, encore faut-il aller les chercher. Regardons ce qui s'est passé, le site de Yamal, donc je le citais tout à l'heure, inauguré en grande pompe par le président russe, par M. Poutine, donc c'était au mois de décembre, en présence des responsables de Total, parce que c'est un projet avec le groupe russe Novatek, avec le chinois CNPC, avec le pétrolier Total, hein. D'ailleurs ils ont financé ça ensemble, hein, parce que, et surtout pas en dollars, parce que évidemment il y avait des risques de sanctions américaines qui leur pendaient au-dessus. La température, je le disais, elle peut descendre sous les moins 50 degrés. Comment on a construit justement ce site de Yamal pour permettre d'extraire plusieurs millions de tonnes de GNL? Ça a duré des années. Expliquez-nous, c'était un chantier pharaonique.
Le gisement de Yamal est connu déjà depuis des décennies. Par contre, le projet de Yamal qui vient d'être inauguré est un projet qui est relativement récent. Et faisons un petit peu cocorico, car c'est un pétrolier français Total et c'est la société Technip qui a assuré l'ingénierie. Et la construction s'est faite dans des délais relativement réduits. Il a fallu faire un aéroport, il a fallu faire des pieux pour ancrer quand même ces installations. Il a fallu amener des millions...
80 000 pilotis dans le permafrost, c'est-à-dire le permafrost, c'est la terre gelée, donc vraiment qui se tient sur des centaines de mètres, hein, qu'on ne peut pas creuser comme ça, quoi.
Et donc, alors, c'est C'est la première fois que les Russes mettent en production une installation de gaz naturel liquéfié. Mais c'est pas la dernière, car après le succès de Yamal, qui est compétitif malgré les prix qui sont quand même du pétrole et du gaz qui sont pas très élevés, ça donne des idées quand même à des investisseurs. Il y a Yamal 1, il y aura Yamal LNG 2,
Gudan également, la péninsule de Gudan toujours en Arctique, avec les premiers coups de pioche prévus d'ici quoi 3-4 ans à peu près. C'est rentable quand même d'aller installer ce type d'installation avec ces infrastructures qu'il faut installer, creuser dans la terre gelée.
Les quantités de gaz sont absolument considérables.
Ça compense.
Et donc l'investissement est rentable aussi. Ce sont des unités qui sont extrêmement grosses. Alors après, il y a quand même le problème de l'évacuation de ce gaz. Et là, ça pose le problème particulier quand même de la mer gelée.
Oui, c'est sûr. Christian Buchet.
Oui, on voit bien que c'est une question de coût, et c'était aussi la question des gaz de schiste, que les Américains justement ont un peu développé ça pour surenchérir le coût de tout ça et freiner quelque part les Russes. Les gaz de schiste font partie aussi d'une donne géopolitique. Je crois que les Russes sont totalement déterminés, c'est ce que vous évoquiez. On y évoquait 40 brise-glace, 11 en construction, 5 sont déjà lancés. Quand on écoute bien ce que dit Monsieur Poutine, il joue garde sur table comme le président chinois. Monsieur Poutine dit clairement, les Américains ont connu le Far West, nous on va connaître le Far North. N'oublions pas nos fameux BPC qu'on a vendus puis qu'on n'a pas vendus, qui sont à l'Égypte aujourd'hui, sont des coques renforcées pour l'Arctique. Bon, et quand on écoute le président chinois, il dit très clairement, à l'horizon 2035, peut-être 2040, on prédominera sur la planète parce que nous serons l'épicentre de l'ensemble des flux. Nous prédominerons comme les Américains n'auront jamais réussi à y parvenir par une maîtrise militaire. Donc, les mots sont dits, la politique suit. Alors après, il y a un jeu très compliqué entre les Occidentaux et encore, je dirais, les Anglo-Américains d'un côté, l'Union Européenne de l'autre, les Russes, ça fait 3 personnes donc qui va se mettre 2 contre 1, et puis les Chinois qui sont derrière. On a des sanctions contre les Russes, mais attention, du coup, ça a poussé M. Poutine à se rapprocher de la Chine, et ça est en train de modifier pas mal la donne. Donc on est vraiment, je dirais, on est au monopoly. Non pas dans la phase où on construit les maisons et les hôtels, mais aux 2 premiers tours. On essaie d'avoir le maximum de territoire, terrain, comme on dit. Et puis après, on essaie de voir avec qui je vais pouvoir me mettre pour récupérer les jaunes qui me manquent. On est vraiment là, et ça serait intéressant que l'Europe prenne conscience d'un certain nombre d'enjeux, que l'Europe se dote d'une politique maritime, parce qu'elle existe officiellement depuis décembre 2008, mais c'est un cadre vide. Donc il y aurait beaucoup à faire. Et puis que l'Europe s'intéresse aussi aux routes de la soie. Le premier pays qui s'intéressait aux routes de la soie, c'est la Hongrie. J'ose espérer que dans le secret des 4 yeux, entre M. Macron et M. Xi Jinping, il y a eu des échanges là-dessus, parce que si on ne se met pas sur ces routes de la soie, on sera hors circuit.
Juste en revenir sur on revient sur les routes de la soie dans un instant, Valérie Niquet, mais c'est vrai que Vladimir Poutine, qui vient inaugurer en personne le site de Yamal, dont nous parlait très très bien Olivier Appert il y a un instant, c'est vraiment assumé. La Russie voit comme une priorité le développement des ressources de l'Arctique, source de richesse pour son pays, mais aussi, donc, c'est un enjeu militaire également. On a vu comment Poutine a pu renforcer un certain nombre d'infrastructures militaires dans la région avec des batteries anti-aériennes. L'État russe joue beaucoup sur le mythe de l'Arctique, hein, Damien de Georges. Vous y vivez là-bas.
Oui, c'est-à-dire que la Russie est la puissance régionale de par sa taille déjà. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur l'UE et l'Arctique. Parce que l'Union européenne s'est dotée récemment d'une politique pour l'Arctique, même d'un ambassadeur pour l'Arctique. Mais très clairement, l'Union européenne est face à un jeu de puissance où elle a essayé d'intégrer le Conseil de l'Arctique en tant qu'observateur permanent. Elle s'est vue accorder une sorte de statut, vous êtes dedans, mais on met pas encore le coup de tampon final, on va dire. Et ce sont des jeux de rapports de force. Mais disons que l'Union européenne finance très clairement les développements dans l'Arctique et aussi la recherche scientifique dans cette zone.
Valérie Niquet.
Oui, mais ce serait effectivement très important que l'Union européenne s'y intéresse de plus près, parce que quand on pense à la Chine à nouveau, un des enjeux pour la Chine, que ce soit l'Arctique d'ailleurs, ou les routes de la soie, le discours sur les routes de la soie en tout cas, c'est aussi la question des normes de ce qui va être. Alors la Chine met beaucoup en avant son intérêt pour l'environnement. On sait qu'en Chine, les résultats sont quand même très très limités et que, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de système légal, que la corruption est absolument considérable, le respect des normes est très limité. Donc la Chine met en avant ça, mais on m'expliquait aussi, je ne suis pas spécialiste de l'Arctique, mais on m'expliquait aussi que la base de recherche que la Chine a dans la zone, comme d'autres puissances, eh bien, ce sont les seuls qui arborent en permanence le drapeau chinois, alors que les autres, au contraire, mettent en avant la coopération en matière scientifique, sans attachement particulier à une nation. Donc on voit bien que pour la Chine, c'est aussi une volonté d'affirmation de puissance ou d'image de puissance. En tout cas, derrière le discours sur les routes de la soie, vous parliez des opportunités, et ça n'est pas hasard si la Hongrie s'y intéresse, c'est que la Chine a très très bien essaye de diviser.
Jusqu'à ce qu'elle veut faire la Hongrie sur ces routes de la soie. On va quand même rappeler ce que c'est que ces nouvelles routes de la soie. Échéance 2049, donc, non, plutôt?
Oui, non, en fait, les routes de la soie, c'est un discours que Xi Jinping a lancé
2049,
en 2013,
les 100 ans de
en
Mao
2013
Zedong.
Lorsqu'il était au Kazakhstan, et puis il a fait le même discours en 2013 aussi en Asie du Sud-Est, avec cette idée de route de la soie, une ceinture, une route, c'est d'une élégance un peu, enfin, en termes d'expression, maintenant c'est l'initiative, la ceinture et la route, mais il faut bien voir que c'est avant tout un discours de politique intérieure. C'est l'objet de l'image de puissance de Xi Jinping, dont le premier objectif est évidemment de se maintenir au pouvoir, de se projeter jusqu'en 2049, de projeter une image de puissance et de succès. Donc c'est un peu comme au poker, le bluff l'image de succès amène une certaine adhésion. Et pourquoi est-ce qu'on parlait de la Hongrie ?
On va le rappeler quand même, c'est un projet quand même titanesque chantier, 10 000 kilomètres, hein, donc sur mer, sur route, 1 000 milliards de dollars d'investissement, des ports, des routes, des voies ferroviaires.
Oui.
C'est gigantesque. Tout ça doit relier l'Asie à l'Europe et à l'Afrique, et ça doit toucher quelques 60% de la population mondiale.
Oui, mais justement, le gigantisme, lui-même en donne les limites. C'est-à-dire qu'on annonce effectivement 1 000 milliards d'investissements. Pour le moment, quand on regarde les chiffres, les choses sont beaucoup plus faibles.
D'accord.
Les projets réalisés le sont avec les pays qui en ont le plus besoin. Le Pakistan, par exemple, les pays qui justement n'ont pas accès à d'autres aides parce que leur gouvernance est quand même très limitée, parce que leurs moyens sont limités. Mmh. Et en Europe, ce sont justement les pays d'Europe centrale qui ont besoin d'infrastructures, et c'est là qu'on reparle de la Hongrie.
Alors la Hongrie, qu'est-ce qu'ils ont intérêt,
donc des projets d'infrastructures là aussi, de construction autoroutière ou autre.
Ouais.
Et ce qui agace aussi certains pays qui rentrent plus dans les normes internationales, c'est qu'effectivement la Chine, par des offres de prix, de coûts évidemment très compétitives, peut-être aussi avec des normes de respect à la fois, encore une fois, financières ou environnementale moins rigide que d'autres institutions, eh bien, arrive à rafler un certain nombre de contrats qui, comme vous l'aviez indiqué dans le cas du Brésil, se traduisent aussi par des déceptions. Dans le cas du Pakistan, qui est pourtant très très proche de la Chine, eh bien, des projets de barrage ont été interrompus par le gouvernement pakistanais, qui s'apercevait qu'en fait Pékin voulait mettre la main d'une manière comme une sorte de, un peu comme les chemins
comme
de fer.
Comme ils ont mis la main sur le port de Goudar,
voilà.
Donc au Pakistan.
Voilà, et puis avec encore une fois des attentes très fortes et également des limites du côté des entreprises chinoises elles-mêmes, qui à la fois sont ravies de disposer de fonds de la part des autorités centrales, mais s'inquiètent aussi beaucoup du fait qu'on les pousse à investir dans des projets, y compris peut-être d'ailleurs dans l'Arctique, qui sont prestigieux en termes d'image de puissance pour la Chine, mais qui en termes de rentabilité sont très peu, en tout cas posent un certain nombre de questions. Donc les routes de la soie, c'est un discours d'abord. Il y a une réalité derrière et un discours qui touche toute la planète et encore une fois très très attaché à des objectifs de politique intérieure chinoise avant d'être attaché à de vraies réalités économiques.
On voit comme ça bouge bien.
C'est quand même en train de devenir réalité quand on voit qu'ils ont construit 110 000 km de voies ferrées en 10 ans. Quand on voit que non pas Singapour mais le port de Shanghai est de fait le premier port mondial, on additionne celui qui est au nord, celui qui est au sud. Les seuls travaux d'agrandissement actuels du port de Shanghai, c'est la superficie de la ville de Paris. Ils mettent le paquet, vous l'avez dit, au niveau du Pakistan, parce que l'autre obsession de la Chine au niveau du sud, en termes géopolitiques, c'est court-circuiter l'Inde. La mettre hors circuit, à travers les routes maritimes, mais en passant à travers le port, bien sûr, le Pakistan. Pourquoi ? Pour débarquer, c'est le cas de le dire, en Afrique, qui est probablement le réservoir de croissance, le réservoir de consommation. Donc, il y a une véritable volonté chinoise. Ils mettent le paquet. Je pense qu'ils ont confisqué une bonne partie des fonds souverains depuis 2008, donc ils n'ont pas de quoi tout financer. Mais ils jouent une politique de partenariat gagnant-gagnant. Et c'est pas inintéressant, parce que on voit que leur route d'arrivée en Europe, c'est Rotterdam. On n'a pas imaginé après ce qu'on peut faire. On voit que la Chine Chine n'est pas aussi bonne que ça pour pénétrer en Afrique. On voit que l'Europe et la France tout particulièrement ont une formidable carte à jouer, probablement avec la Chine. C'est-à-dire que à l'Europe de savoir de qui est, avec qui elle veut travailler, sans doute avec tout le monde, mais avec les Russes, avec les Chinois, on a aujourd'hui une donne à jouer, et il faut que l'Europe se lance, parce qu'autrement elle ne sera pas.
Ouais, mais quand on voit par exemple, regardez, la République tchèque qui a réélu son président pro-russe ce week-end, la Hongrie qui se tourne vers la Chine, Damien de Georges, l'Europe de l'Est commence un petit peu à regarder ailleurs que du côté de l'Ouest. Hein.
Mais l'Europe de l'Est regarde aussi l'Arctique, la Pologne est observateur, notamment à ce Conseil de l'Arctique.
Bon, on continue dans un instant. L'Arctique, est-ce la nouvelle planète à conquérir? On va continuer à en parler avec Christian Buchet, auteur de La Grande Histoire de la Mer.
Vue de la mer.
Ça change tout, bien sûr. Avec nous également Damien Degeorge, Valérie Niquet, auteur de La Puissance Chinoise en sans question, puis Olivier Appert, qui préside le Conseil français de l'énergie. J'ai encore beaucoup de questions à leur poser. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, j'ai voulu vous parler ce soir de l'Arctique, hein, qui devient de plus en plus un terrain de jeu entre grandes puissances, principalement Russie, Chine, Japon, on n'oublie pas aussi l'Union Européenne, bon, tant que faire se peut, hein, bien entendu, hein, avec ces nouvelles routes, hein, qui peuvent s'ouvrir, on verra jusqu'à quel point, compte tenu du réchauffement de la planète, donc de la fonte des glaces, et puis des terrains qui abritent des quantités hallucinantes de matières premières, du pétrole, du gaz, des minerais, encore faut-il aller pouvoir les chercher quand on sait que la Terre est gelée, qui fait parfois, à un certain moment de l'année, moins 50 degrés. Les Chinois, justement, qui veulent en faire une route de la soie polaire, hein, justement. Tiens, vous étiez au Japon encore ce week-end, hein, Damien Degeorge, justement. Et on en parle, justement, au Japon, de ces velléités chinoises sur l'Arctique. On s'intéresse au Japon, à l'Arctique. Preuve que, quelque part, là aussi, on essaie de rivaliser avec les Chinois. On n'est pas indifférent à ce que les Chinois veulent.
Bien sûr, il y a plusieurs pays asiatiques qui s'intéressent à l'Arctique, notamment pour les routes maritimes, notamment pour les ressources, mais surtout parce que la Chine s'y intéresse. Et c'est le cas du Japon, c'est le cas de Singapour, c'est le cas de la Corée du Sud. Et si on descend, même jusqu'en Australie, Nouvelle-Zélande, on s'intéresse aussi à l'Arctique.
Valérie Niquet, spécialiste de l'Asie à la FRS, auteur de La Puissance Chinoise en sans question. Ça va évidemment au-delà de la Chine, cet intérêt pour l'Arctique.
Ben oui, effectivement. Et on voit très bien d'ailleurs que les positionnements sont différents. Le Japon s'y intéresse et je crois qu'il est également membre observateur, comme la Chine, comme Singapour.
Du Conseil de l'Arctique.
Comme l'Inde d'ailleurs aussi.
C'est loin.
Comme la Corée du Sud. Non, mais on voit que l'ensemble des pays ne veulent pas être absents de la zone. Mais la grosse différence, c'est que les Japonais, justement, en termes économiques, considèrent que pour le moment, ça reste quand même très, très aléatoire, alors que les Chinois y vont pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons, encore une fois, de prestige et d'image de puissance. C'est un peu comme l'espace. Les Chinois veulent aller dans la Lune. Les Japonais pourraient aller dans la Lune s'ils y mettaient une priorité. Simplement, ils considèrent que ça n'a pas un intérêt absolument extraordinaire pour la Chine. On voit là que la nature du système politique joue aussi un rôle essentiel dans l'image qu'on veut projeter et ce à quoi on s'intéresse. Et être une grande puissance de l'Arctique au même titre que la Russie, se positionner sur cette zone-là, ça n'est pas uniquement motivé pour la Chine par l'accès à ces fameuses routes qui sont quand même fermées encore aujourd'hui une très bonne partie de l'année et qui, en termes de rentabilité économique, c'est comme les fameux chemins de fer qui traversent l'Asie centrale, reste très très moyen par rapport aux grands containers sur lesquels on peut charger énormément de produits dans un sens et dans l'autre. Pour le moment, il n'y a pas énormément de ports le long des côtes russes qui permettent de débarquer et de recharger des containers de marchandises, qui est le point principal du commerce. Donc on voit que pour la Chine, l'intérêt va bien au-delà des intérêts économiques et même peut-être énergétiques. C'est aussi, encore une fois, faire partie des grands, alors que le Japon considère moins ça comme une priorité absolue. Ils veulent en être, ils ne veulent pas être oubliés. Mais ils considèrent de beaucoup plus près la véritable rentabilité économique, notamment les entreprises.
Damien Degeorge, toujours consultant international.
Oui, alors il faut voir l'Arctique comme un mini G20 finalement où tout le monde se retrouve. Déjà, si on dit que la Chine et l'Inde sont observateurs au Conseil de l'Arctique, c'est déjà beaucoup. Et l'Islande, qui présidera le Conseil de l'Arctique l'an prochain pour 2 ans, est devenue un carrefour d'enjeux géopolitiques. Vous avez l'ambassade de Chine, vous avez l'ambassade d'Inde, l'ambassade du Japon.
Dingue. pour un pays, on va le rappeler, qui est 300 000 habitants. Hein.
C'est la population d'une ville comme Nice, oui. Et c'est une fois et demie la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Voilà, 300 000 rien que sur l'Islande et 150 000 rien que sur Reykjavik.
200 000, c'est 60%.
D'accord, oui, c'est ça. Donc c'est à peu près la population du 15e arrondissement de Paris pour comparer. Christian Buchet.
On parle de l'Inde.
Ouais, l'Inde.
L'Inde va avoir 1,5 milliard d'habitants en 2030, comme la Chine. Donc vous imaginez que, vu les réserves de l'Arctique, bien sûr qu'ils s'intéressent à ça. Là où je crois aux routes de l'Arctique, c'est pas tellement pour faire passer des conteneurs, parce qu'effectivement, on élargit Suez, on a doublé Panama. Non, non. C'est que l'avantage premier, je dirais, il y a quatre avantages d'abord. Premier, c'est que il y a 30% de kilomètres en moins. Ce qui n'est pas négligeable
bien,
pour le transport maritime.
Ouais, ouais.
Deuxième avantage, c'est 40% en termes de gain de temps, parce que vous n'avez pas de formalité administrative, vous n'avez pas de manœuvre nautique pour embouquer ou débouquer un canal. Troisième avantage, aucun problème de tirant d'eau, ce qui peut poser encore des problèmes par rapport à certains navires de plus en plus gros par rapport aux canaux. Et quatrième avantage, les routes qui sont plus sûres, à moins que les Inuits sombrent dans le terrorisme international, qui n'est pas une donnée sur laquelle on travaille assidûment. Donc c'est quatre éléments qui vont développer ces routes. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit finalement. Parce que l'objet, c'est pas tellement de gagner du temps. C'est surtout qu'on va désenclaver les deux cul-de-sac, encore une fois, qui sont pas accessibles aujourd'hui. C'est pas une question de raccourci, c'est qu'on va désenclaver le nord du Canada et la Sibérie. Sauf que je crois beaucoup plus au passage du nord-est qu'au passage du nord-ouest. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez développer au niveau terrestre une zone, il vous faut des hommes. Et que ça, c'est les conséquences de l'aménagement du territoire version soviétique. Je suis pas sûr que ça soit toujours très fan. Je parle pas des Reykjavik d'être dans ces zones, près d'Yamal, etc. Mais vous avez deux villes déjà de plus de 167 000 habitants. Mourmansk avec 365 000 et Norilsk avec 167 000. Tandis que Fairbanks du côté occidental, ce n'est pas dans le cercle polaire. Donc on
Mourmansk
voit
qui abrite
tout
le siège de l'administration de la
Russie.
100% étatique. Vraiment, ils y croient beaucoup. Juste, ces routes, vous nous expliquez l'avantage. En effet, ça, c'est bien sur le papier, mais il faut quand même se faire escorter d'un brise-glace.
Attendez,
ça coûte cher.
Les brise-glaces, les Russes en ont hérité également de l'ère soviétique. Ils en ont 40 aujourd'hui, ouais. 11 en construction, 5 qui sont déjà lancés au niveau de la construction.
De Chinois,
et ils vont en faire deux de 137 mètres de long. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que vous pouvez passer toute l'année à partir du moment où vous êtes affublé de brise-glace. Alors bien sûr, l'environnement, vous savez, elle a bon dos. Hein. Donc on peut pas
on
passer
va en
le passage. Mais les Russes vont expliquer que on a déjà vu ça avec l'Elson Vadès, c'est très contrasté, donc il faudra être affublé de brise-glace. Ce qui permettra en plus d'améliorer les subsides russes.
Les glaces qui disparaissent le long des côtes russes, est-ce que ça signifie que la navigation y est plus facile? La cartographie, elle n'est pas forcément extrêmement bien développée dans cette région, Christian.
Non,
les assurances ne vont peut-être pas suivre.
Non, mais vous savez, on parlait de technique, on parlait de Total, on pourrait parler du CHUM, le service hydrographique de la Marine nationale. C'est très facile de faire ça, c'est une question de moyens et ça peut aller très vite.
Alors, Damien Degorge et Olivier Appert qui est avec nous également.
Très brièvement, en complément, il faut voir aussi ces routes maritimes arctiques comme une sorte d'itinéraire bis en cas de blocage en mer de Chine un jour.
Oui.
Voilà.
En cas de guerre, ouais, par exemple, ouais, tout à fait. Olivier Appert,
oui,
est avec là, Olivier Appert, donc qui est membre de l'Académie des technologies.
On a parlé du projet Yamal LNG et effectivement, il y a une grande nouveauté dans ce projet-là par rapport à tous les autres projets de GNL. C'est la construction d'un méthanier brise-glace. Le méthanier Christophe de Margerie, du nom de l'ancien président. C'est l'objectif pour les Russes, c'est très clair, c'est de pouvoir atteindre l'ensemble des marchés de l'Asie, parce que dans le domaine du gaz, ce qui se développe, c'est l'Asie. Et donc, pour eux, c'est un enjeu quand même qui est tout à fait important d'avoir accès par les voies maritimes. Les voies maritimes offrent aussi la flexibilité. Quand on construit un gazoduc, on livre d'un point A à un point B. L'avantage de la voie maritime, c'est que le gaz naturel liquéfié, on pourra le livrer en Corée, au Japon, en Chine ou n'importe où.
Ouais. On a vu que c'était une nouvelle terre d'affrontement des grands leaders, Xi Jinping, Poutine, l'un et l'autre ne ménageant pas leurs déclarations justement à destination de l'Arctique. Juste les États-Unis qu'on en dise un mot, parce que Barack Obama, c'était un an avant son départ, il avait présidé un sommet international, c'était en Corée, en Alaska. C'était le premier président américain en exercice à visiter l'Alaska, où il avait autorisé des forages de shale, donc, dans la mer. Donald Trump, lui, veut ouvrir à nouveau l'Alaska à l'exploration pétrolière. Ils vont accélérer là-dessus aussi, les Américains, Christian Buchet?
À l'évidence, ne serait-ce
face à Xi Jinping, face à Poutine?
Oui, ne serait-ce que pour augmenter l'offre, et l'offre, encore une fois, rend plus difficile l'exploitation, effectivement, de la Sibérie. Donc, je dirais, il y a des visées. C'est l'histoire du gaz de schiste, on l'évoquait tout à l'heure. Les Américains sont à fond là-dedans pour faire baisser le coût pour ne pas rendre rentable tout un tas d'éléments. En sachant que les Russes pleurent, n'oubliez jamais que l'Alaska était russe et que les Russes l'ont vendu aux États-Unis. C'est un peu l'histoire de la Louisiane vue de la Russie.
Voilà. C'est ça exactement. Oui, Olivier Affaire.
Oui. Je voudrais revenir sur le problème d'environnement qui me paraît un problème très important qu'il ne faut pas négliger.
Évidemment. Parce que les défenseurs de la planète sont inquiets justement de ce qui se passe en Arctique, à juste titre. Hein.
Les problèmes qui sont posés par l'exploitation du pétrole et du gaz sont très différents. Et le gaz, on peut maîtriser en fait la pollution. Le cas de l'Exxon Valdez, donc c'est un pétrolier qui a eu un accident au sud de l'Alaska.
90, hein. Par là, dans ces années-là, de mémoire, oui.
Ça a laissé quand même des traces extrêmement importantes dans l'ensemble du secteur pétrolier, de sorte que un nombre important de compagnies pétrolières, y compris les compagnies américaines, sont très réticentes à envisager des investissements. À ma connaissance, Shell a abandonné complètement tout projet en Arctique. Total aussi, me semble-t-il. C'est quand même plus simple de développer des projets de pétrole ou de gaz de schiste aux États-Unis que de se lancer dans une grande aventure.
Est-ce que d'autres vont avoir moins de scrupules aussi, Olivier Appert?
Oui, enfin, ils pourront investir, mais enfin, je doute quand même que les grands de la profession, ce sont des exploitations quand même qui sont extrêmement complexes.
Oui.
Il n'y a que les grandes compagnies internationales qui sont en mesure de développer ce genre de choses.
Pour l'instant, elles sont un peu hésitantes. Les pays de la région, est-ce que, on parle des problèmes environnementaux, Damien De Georges, vous vivez à Reykjavik, hein, est-ce que d'un mal peut naître un bien? Il y a l'ouverture de route, il y a le passage du Nord-Est, cette route maritime. Quelle est la position des pays de la région? Est-ce qu'on veut protéger coûte que coûte cette région? Où on est prêt à en faire quelque part une terre de développement, quitte à faire du green business aussi en même temps, quelque part, en protégeant l'environnement.
Alors le cas de l'Islande est très intéressant puisque c'est un pays qui est connu pour ses énergies renouvelables, la géothermie notamment, et qui vient d'avoir un nouveau gouvernement avec un leader écologiste. Et d'ailleurs, très récemment, le chinois Knox s'est retiré du rêve islandais d'avoir une activité pétrolière, qui n'aura donc pas lieu pour l'instant, puisque ça ne paraît pas assez rentable. Et puis, finalement, l'Islande en tire un bénéfice sur son positionnement en termes d'énergie renouvelable. On parle aussi beaucoup dans l'article de développer les énergies renouvelables. Ça, c'est un point nouveau.
Mais qu'est-ce qu'on dit sur l'arrivée de Chinois, de Russes qui veulent forer, qui veulent passer, etc., avec ces risques pour l'environnement? Est-ce qu'on est prêt à faire barrage quelque part ou pas?
Ah, c'est un sujet sensible.
Ou c'est une manne qui peut arriver, éventuellement une manne économique?
Disons qu'on en a parlé beaucoup il y a 10 ans, l'Eldorado arctique en termes de pétrole, de gaz, puis de minerais, les fameuses terres rares, notamment au Groenland. Et puis on a été désillusion en désillusion, notamment au Groenland, souvent pour des problèmes d'infrastructure, mais aussi pour d'autres problèmes. Et finalement, on en est à parler d'énergie renouvelable aujourd'hui, de tourisme, de tout un tas d'autres sujets dont on ne parlait pas avant.
Valérie Niquet, la FRS.
Oui, effectivement, deux points. Le premier point qui rejoint ce qu'on disait à l'instant,
avec Olivier Appert,
c'est que technologiquement, la Chine n'est pas encore au niveau des plus grands et que donc ça n'est pas elle qui va remplacer les plus grands pour chercher du pétrole dans les zones les plus compliquées. Donc c'est là une limite. La deuxième limite, c'est qu'on voit très bien que dès que les conditions, les normes sont trop sévères, notamment environnementales ou autres, eh bien les Chinois se retirent parce que ce qui les intéresse, c'est justement d'être dans des pays où à la fois le système légal et normatif, y compris en termes environnementaux, leur permet des bénéfices beaucoup plus importants et ils ne sont pas prêts encore aujourd'hui, en dépit de toutes les déclarations, à se plier à des normes extrêmement sévères qui renforcent considérablement le coût et donc d'ailleurs ils ne sont peut-être pas encore aujourd'hui capables de s'adapter.
D'un mot, Christian Buchet, on parle de l'Arctique, on va conclure dans l'Antarctique. Est-ce qu'un tel scénario, là on est complètement au sud, le pôle sud,
c'est... Dans l'Antarctique, il y a un statut spécial. D'abord, c'est pas de la glace qui flotte, c'est véritablement un continent, une sauvegarde internationale. Non, sur la Chine met tous les fers au feu. Et il y a une zone qui l'intéresse au moins, si ce n'est beaucoup plus que l'Arctique, c'est l'Afrique. Hein, parce que là aussi, il y a des réserves de gaz, de pétrole tout à fait considérables. Mais vous l'avez dit, il s'agit d'être partout, de montrer sa puissance. Et
question de prestige, disait Valérie.
C'est le jeu de go. Nous, on joue aux échecs. C'est le jeu de go. Il s'agit d'être partout à la fois, de voir un peu les alliances, comment ça peut se faire. On ne sait jamais. Tout dépend comment les États-Unis vont agir par rapport aux Russes. S'ils se rapprochent des Russes, à ce moment-là, on a une carte avec les Chinois. On est dans une véritable partie
pour
aujourd'hui.
Pour conclure, justement, Christian Buchet, vous, l'auteur de la grande histoire vue de la mer, est-ce qu'on vit une époque inédite? Est-ce que les cartes ne sont pas
génial.
En train d'être remises à plat quelque
on
part?
On vit une période fabuleuse. On rentre dans un troisième temps de l'histoire. Vous avez vu le temps des Méditerranées, le temps de l'Atlantique, et depuis 15 ans, on est dans le temps de l'océan mondial. Et tout change parce qu'il y a un pays qui, en 1434, a interdit la navigation en mer, c'est la Chine. Perfit a tout écrit dans un formidable livre qui s'appelle « Quand la Chine s'éveillera », sauf qu'à mon avis, c'est pas le bon titre, c'est « Quand la Chine se jettera à l'eau ». Créer une entreprise, se dit en chinois, se jeter à la mer aujourd'hui, on voit qu'elle veut être partout. Pour la première fois depuis 500 ans, les Chinois sont sortis de leur zone. En 2016, il n'y avait qu'une puissance à Djibouti, la France.
Ouais.
2017, vous avez les États-Unis et la Chine.
Voilà,
on voit que tout est en train de changer.
Un port à Djibouti, un port chinois.
Et la France, deuxième domaine maritime au monde, qui n'a jamais été aussi bien placée de toute son histoire, a un formidable challenge. Le fait de cet ouvrage, c'est de montrer que se tourner vers la mer, c'est surfer sur les vagues de la réussite. C'est vrai, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et dans ce temps de la maritimisation, il faut se jeter à l'eau.
Damien De Georges, vous allez repartir donc à Reykjavik, là, tout à l'heure. À quoi va ressembler l'Arctique dans 30 ans?
Ah, ça, c'est une grande question. Mais j'espère que la France sera intéressée encore davantage, comme l'Union européenne. Et puis, ce sera sans doute un terrain de jeu géopolitique de plus en plus important, comme ça l'a été toutes ces dernières années.
Qu'est-ce qu'on va faire de ce changement qui est en train de se produire du côté de l'Arctique, hein, la nouvelle planète à conquérir? Valérie Niquet, un mot, et Olivier Appert, un mot, et on se dit au revoir.
Je crois qu'effectivement, comme on l'a dit, il faut absolument être présent, parce que l'Union européenne, au moins, est porteuse de normes qui sont bénéfiques, je pense, pour la planète à terme, beaucoup plus que des puissances comme la Chine, qui en plus comportent certaines fragilités internes dont il faut aussi tenir compte dans les grands projets dont on parle aujourd'hui.
Et dont vous nous parlez souvent. Olivier Appert.
On a beaucoup parlé de la Chine. Il y a une région dont on n'a pas parlé, qui pourtant est fondamentale pour les Chinois, c'est le Moyen-Orient, qui assure la moitié des approvisionnements en pétrole et en gaz. Et donc, peut-être que diversifier les approvisionnements en dehors du Moyen-Orient a du sens pour les Chinois.
Merci à tous les quatre, c'était passionnant. Christian Buchet, on le rappelle, La Grande Histoire vue de la mer, superbe livre, justement. Il est membre de l'Académie de Marine. Damien De Georges, consultant international, donc, qui parle l'islandais, le suédois, le finlandais, je suis toujours admiratif, hein. Bon retour, donc, tout là-haut. Valérie Niquet, la puissance chinoise en 100 questions, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et puis Olivier Appert, à la fois membre de l'Académie des Technologies, conseiller du Centre Énergie de l'IFRI. C'est fini, on revient vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.